This is EU Radio.
EU Radio, il est 14h. EU Radio, animons l'Europe.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Géopolis, votre émission qui explore les ordres et désordres du monde.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de Géopolis sur Euradio, une émission qu'on va dédier à la situation en Hongrie, à l'approche des élections législatives qui pourraient faire peut-être tomber Viktor Orban qui domine la scène politique depuis longtemps maintenant, face à une opposition qui a longtemps peiné à s'organiser jusqu'à l'émergence récente de Peter Magyar, qui pourrait donc faire tomber Viktor Orban. Pour décrypter cette situation, les dynamiques internes, et puis prendre un peu, élargir un peu le propos avec évidemment la grande géopolitique qui est jamais très loin quand on parle de la Hongrie. J'ai la chance d'avoir en ligne Mathieu Boidron. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Je le disais, dans quelques mois vont avoir lieu des élections législatives qui s'envisagent assez mal. Pour Viktor Orban, alors on nous l'a annoncé à plusieurs reprises déjà lors des scrutins précédents, qu'il risquait peut-être de tomber, voire de trébucher, mais pour l'instant il a réussi à se maintenir. Sa situation semble plus compliquée cette fois-ci.
Oui, effectivement, on a affaire à une situation politique qui, pour Viktor Orban, son gouvernement, le Fidesz, dans un contexte radicalement différent que celle de 2022, la dernière en date, s'annonce difficile pour lui. Et la situation interne du pays, la situation géopolitique, une forme aussi peut-être un peu d'usure du pouvoir, explique en grande partie la situation aujourd'hui, même si, comme vous l'avez tout à fait justement rappelé, lors des dernières élections législatives, effectivement, déjà, Orban était annoncé en difficulté face à son opposant de l'époque, Peter Markizay, et finalement, il avait réussi à emporter le scrutin et même à remporter le scrutin comme jamais lors de ces dernières législatives. Donc, l'échéance de la prochaine au printemps 2026 est encore loin. Il peut encore se passer des choses et Viktor Orban a toujours beaucoup de ressources et met beaucoup d'énergie dans cette campagne qui démarre. Donc le résultat n'est pas fait et loin d'être encore d'ici.
Qu'est-ce qui nous indique les sondages au jour d'aujourd'hui, là, début décembre 2025?
En fait, Peter Markizay, donc son parti TISA, maintiennent l'avance sur le Fidesz, une avance qui maintenant, au fil des mois, est constante. Et c'est vraiment ça qui est nouveau. Alors les écarts restent relativement faibles, mais malgré tout, il y a quand même une musique de fond qui laisse entendre que le Fidesz est quand même distancé dans l'opinion. Et ça s'explique sans doute en partie parce que finalement le parti TISA de Peter Magyar chasse un peu, si on veut, sur les mêmes terres que celles de Viktor Orban, sur ce qui constitue son cœur de cible, son électorat, les classes moyennes, les artisans, les commerçants, les professions libérales. Et on voit bien au fil des mois que cette avance, finalement, se maintient.
Alors, le scrutin, évidemment, il y a beaucoup de questions qu'il suscite, parce que ça fait donc des années, longtemps maintenant, que Viktor Orban est à la tête du pouvoir en Hongrie, et il a notamment, au fil de ces années, pris un contrôle de plus en plus pesant sur les médias notamment gouvernementaux, mais les médias en général. Est-ce qu'il pourrait y avoir, au-delà de cette influence médiatique qui est très large, est-ce qu'il pourrait y avoir, comme certains l'anticipent ou l'imaginent, ce qui est tout à fait, ce qui pourrait quand même être très surprenant au sein de l'Union européenne, il pourrait y avoir de la triche?
C'est une crainte, en fait, face à la situation difficile dans laquelle se trouve le Fidesz. Effectivement, il y a eu des bruits d'une volonté du pouvoir de refuser, quoi qu'il arrive, le résultat des urnes et de maintenir sa présence aux commandes du pays. Il y a eu des rumeurs d'arrestation de l'ancien chef d'état-major, hein, qui désormais est du côté de l'opposition. Ces rumeurs semblent désormais un peu abandonnées. On a le sentiment que Viktor Orban s'est réimpliqué personnellement très fortement dans la campagne, a réinvesti les thématiques nationales après avoir beaucoup insisté sur l'international. Donc cette option semble avoir été écartée. Ensuite, il ne reste pas moins que la Hongrie, ça reste une démocratie dysfonctionnelle, hein, comme je le dis souvent, parce que évidemment la grande majorité des médias sont aux mains du pouvoir. Vous l'avez dit, ça a été une stratégie constante depuis 2010. Que de prendre le contrôle de médias et certains de certains médias d'opposition. Et puis la règle électorale aussi a été modifiée pour favoriser le Fidesz. Donc l'environnement, on va dire, politique et médiatique dans lequel évolue le Fidesz lui est très favorable. Et malgré ça, effectivement, les sondages sont toujours un peu difficiles, ce qui explique cette tentation qui a été celle, je pense, à une période de certains cadres du Fidesz. On entend moins ce type de propos, cette dénonciation très virulente, déshumanisante, hein, des personnes de l'opposition. Et on voit, au contraire, Orban chercher à remettre tout son talent politique dans ce scrutin qui démarre fortement là en ce moment pour pouvoir l'emporter au bout du compte.
Comment est-ce que vous pourriez nous les décrire, ces médias aux ordres? Est-ce que c'est un battage permanent en faveur de Viktor Orban et son équipe?
Oui, hein, c'est de la propagande comme on peut l'imaginer. Ça touche évidemment la radio, ça touche la télévision, ça va même au-delà de cela. On a des campagnes récurrentes de ce qu'on appelle des consultations nationales. Donc ce sont des questionnaires qu'on envoie à la population sur des thématiques et avec des questions qui sont libellées évidemment tout à fait de manière très favorable au pouvoir, qui cible évidemment l'Union européenne et Bruxelles. En ce moment, en Hongrie, à Budapest, j'y étais il y a quelques semaines, il y a une très forte campagne d'affichage contre Volodymyr Zelensky, contre Ursula von der Leyen, qui occupe l'espace public. On voit notamment Ursula von der Leyen tenant entre les mains une marionnette. Donc on voit que la propagande n'est pas très subtile, hein. C'est vraiment des clichés avec lesquels on joue et on utilise et on a recours à tous ces moyens-là pour effectivement autant que possible peser sur la société civile, sur l'électorat à des fins électorales.
Alors, j'imagine que c'est pas toujours évident de le quantifier, mais est-ce qu'il y a une réelle lassitude d'être un petit peu le mouton noir de l'Union européenne? Alors, évidemment, Viktor Orban a tout fait pour, mais on sait qu'il se met toujours de côté, notamment sur évidemment ce sujet crucial, hein, qui est la guerre en Ukraine, une alliance avec la Russie qui a été encore matérialisée par une visite récente de Viktor Orban chez Vladimir Poutine. Est-ce que dans une large frange de la population hongroise, il y a une lassitude, voire peut-être même une honte de l'image que ça donne de la Hongrie ailleurs?
Alors, dans une frange de la population, oui, sans doute. Hein, on a tendance à considérer de manière un peu schématique. Alors, c'est schématique, mais c'est quand même à peu près le cas quand même. On a plutôt des forces libérales d'opposition à Budapest et dans les principales villes du pays. Le reste de la Hongrie étant plutôt acquise à Viktor Orban. Ce qu'a réussi Viktor Orban, c'est en fait aussi mettre son pays sur la carte, hein, puisque la Hongrie, ça reste un petit pays d'à peine 10 millions d'habitants qui n'avait pas l'habitude de s'impliquer fortement à l'international. Aujourd'hui, tous les Européens savent quel est le nom du Premier ministre hongrois et même au-delà. Donc ça renforce, hein, sans doute, chez certains, un sentiment de légitime fierté. Le pendant, c'est qu'effectivement, ces prises de position toujours très, très virulentes et très en opposition avec le reste de l'Europe fatiguent et agacent une autre partie de la population. C'est une réalité, comme vous l'avez dit, qui est difficile à quantifier, mais peut-être ce qui est plus important à voir, c'est que En fait, Orban, depuis qu'il est revenu au pouvoir en 2010, a toujours eu le souci de maintenir le tempo politique. C'est-à-dire que systématiquement, il est à la relance sur des thématiques ou des sujets toujours très clivants, ce qui lui permet de maintenir à l'agenda les thématiques qu'il souhaite et qui lui permet systématiquement, en chassant sur sa droite, hein, c'est une stratégie qu'il a adoptée depuis les années 90, depuis qu'il est le président du Fidesz, de maintenir, de raffermir sa base. Et on l'a vu en 2022 de manière éclatante. Il a cette capacité politique et ce ressort de pouvoir animer le débat public sur les angles qui sont les siens, et il amène toujours le débat là où il veut l'amener à son plus grand profit.
Alors, ce qui pourrait peser, hein, bien sûr, sur le scrutin, c'est aussi la situation économique. Est-ce que vous nous diriez, pendant longtemps, hein, la Hongrie a été un pays, en tout cas, en développement économique, avec une croissance insolente. Apparemment, le vent semble tourner. Est-ce que vous nous diriez que la Hongrie est en crise aujourd'hui, en tout cas sur le plan économique ?
Alors, il y a des facteurs effectivement de faiblesse, hein, sur le plan économique. L'inflation reste à un niveau très élevé. Les prestations sociales, les salaires restent faibles. Le gouvernement vient d'ailleurs vient d'annoncer une augmentation du salaire minimum, hein, là encore à des fins électoralistes. C'est des choses auxquelles on assiste à chaque élection. On augmente les prestations sociales ou des allègements d'impôts dans cette configuration-là. La Hongrie aujourd'hui, oui, dans une situation difficile, et c'est sans doute ce qui compte le plus pour les Hongroises et les Hongrois, plus que la situation internationale. C'est sans doute ce qui explique le désaveu dont souffre aujourd'hui Viktor Orban. C'est vraiment l'inflation persistante, le taux élevé de pauvreté et la difficulté pour beaucoup d'habitants à boucler les fins de mois.
Alors, on va parler du camp d'en face, si vous le voulez bien, en face de Viktor Orban. Le parti qui pourrait éventuellement remplacer le Premier ministre au pouvoir depuis fort longtemps maintenant. Est-ce que vous pouvez vous me disiez, hein, dans nos échanges juste avant de commencer l'émission, qu'il fallait pas forcément se réjouir trop vite. Ça serait pas forcément la révolution, même si le candidat d'opposition gagnait contre Viktor Orban.
Oui, tout à fait. Peter Maillard, donc l'actuel candidat d'opposition qui tient un peu la corde face à Viktor Orban avec son parti TISA, est arrivé il y a très peu de temps, vraiment, en politique, en 2024 seulement. Il est issu lui-même du Fidesz. Il a longtemps été un cadre du parti, associé au gouvernement. Il est arrivé en 2024 dans l'opposition à l'occasion d'un scandale qui a affecté le gouvernement et notamment son ex-femme qui était ministre de la Justice. Donc c'est un pur produit du Fidesz et donc il partage en fait l'essentiel du programme économique et politique de Viktor Orban. La seule différence sur laquelle il positionne son action et qui rassure les partenaires européens, c'est sur le retour à une forme d'état de droit et de reprise de relations apaisées avec l'Union européenne. Mais on a bien vu notamment récemment dans le processus de désignation de ces candidats, des candidats du parti TISA pour législatives, que finalement il a écarté les candidats possibles du reste de l'opposition. Et aujourd'hui, par exemple, la gauche n'existe plus en Hongrie. C'est un combat qui se joue à droite. Et la faible ouverture dont a fait preuve Peter Maillard peut se comprendre peut-être pour des raisons de tactique électorale, mais laisse entendre tout de même une conception de l'exercice du pouvoir qui, je crains, c'est mon analyse personnelle, n'engage que moi, ne serait pas forcément radicalement différente de celle de Viktor Orban.
Vous avez des mots forts, hein, Mathieu Boisdron. Vous nous dites la gauche n'existe plus en Hongrie. Hein.
Non, effectivement, aujourd'hui, et tous les partis d'opposition, à part TISA, sont réduits dans les sondages à quelques pourcents, à quelques points. À part peut-être, et c'est encore un élément à avoir en tête, à part peut-être le parti d'extrême droite Miazank, qui est déjà représenté au Parlement et qui pourrait peut-être aussi progresser à l'occasion du prochain scrutin. On verra ce qu'il en est. Mais voilà, les autres forces ont en grande partie disparu.
Et la gauche, elle ne s'est jamais relevée. Hein. Je crois que c'était après la grande crise, hein, en 2008-2009. Il y avait eu des paroles qui avaient été prononcées par le Premier ministre de l'époque, qui annonçait qu'il révélait qu'il avait menti à sa population. Et ça, les Hongrois lui ont jamais pardonné, et n'ont jamais pardonné en général à la gauche. Hein.
Tout à fait. On se rappelle donc de Ferenc Gyurcsány, hein, qui était le Premier ministre de l'époque, qui avait menti ouvertement lors de la campagne électorale sur la situation économique du pays, et dont un enregistrement devant son groupe parlementaire tenu au balaton avait fuité dans la presse, et dans lequel il disait clairement à ses collègues parlementaires « Nous avons merdé, et nous avons menti, et aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre solution que de ne pas tenir nos promesses ». Et on se rappelle que ça avait suscité de très fortes manifestations, et ça avait permis en quelques mois aux Fidesz et à Orban, qui avaient été même battus en 2002, de revenir très fortement au pouvoir, d'emporter la majorité des taudières au Parlement et d'engager son programme de réforme sans opposition réelle qu'on connaît depuis lors.
Alors un mot pour terminer aussi sur le positionnement géopolitique d'Orban. Alors on a parlé évidemment de son rapport à la guerre en Ukraine, hein, évidemment avec ce tropisme russe qui n'est plus à démontrer. Ce qui est toujours étonnant quand on se rappelle du début du parcours d'Orban à la fin des années 80, qui était un des fers de lance de la démocratisation, qui avait notamment suivi des bourses de Soros à l'époque. Mais ça, c'est une autre histoire. Son positionnement avec Donald Trump, alors on a parfois du mal à entendre. Il y a évidemment cette amitié, et puis en même temps on voit bien affiché, et puis on voit bien il y a quand même des tensions sur la question du gaz russe avec Donald Trump qui met en cause très régulièrement les pays européens pour le fait qu'ils continuent à s'alimenter en hydrocarbures russes, et Viktor Orban qui tient énormément à ça. Hein.
Tout à fait. Alors là, on est vraiment au cœur des ambiguïtés, des paradoxes en fait, du contexte géopolitique actuel. C'est-à-dire qu'on a effectivement un Donald Trump, un Vladimir Poutine, un Viktor Orban qui sont relativement convergents sur le plan des valeurs, mais la Hongrie se trouve un peu prise entre les rivalités géostratégiques ou géopolitiques qui sont latentes et qui opposent les États-Unis à la Russie de Poutine sur les hydrocarbures, le gaz, les ressources énergétiques au sens large. On sait que Trump a surtout le souci de vendre son propre gaz de schiste aux Européens, ce qu'il a largement commencé à faire en raison des sanctions contre le gaz russe. Orban, lui, a toujours refusé de s'affranchir de ce gaz russe pour des raisons à la fois pratico-pratiques, parce que c'est une ressource bon marché pour sa population dans un contexte de forte inflation, donc il y a là une nécessité politique, et puis aussi pour des raisons idéologiques, le fait de garder ce lien avec la Russie de Poutine, auquel il ne veut pas renoncer pour les raisons que l'on connaît bien. Donc effectivement, Orban est un peu sur une ligne de crête entre Trump et Poutine. Il a obtenu la prorogation pour un an de son autorisation d'importer des matières énergétiques venant de Russie, mais très certainement il faudra que la Hongrie à terme s'affranchisse de cette dépendance au gaz russe, parce que entre les États-Unis d'un côté et l'Union européenne de l'autre, la pression va finir par sans doute devenir trop complexe à tenir.
Alors justement, Mathieu Boisdron, cette pression de l'Union européenne, alors souvent, vu de loin, on a l'impression que Bruxelles fait les gros yeux, voilà, qu'il y a des manifestations de mauvaise humeur fortes, mais qui ne vont pas forcément plus loin. Est-ce que, vous qui suivez ça au jour le jour, est-ce que vous avez quand même l'impression qu'au-delà de tout ça, la Hongrie, elle le paye quand même, tous ces écarts qu'elle fait au respect des règles.
Ah ben, elle le paye cash, c'est le cas de le dire, parce que par exemple, la Hongrie est privée de fonds européens en raison de la situation que l'on connaît. L'Union européenne retient 20 milliards d'euros à peu près de fonds européens pour la Hongrie. Et pour la première fois depuis 2004, l'information est sortie il y a quelques jours, la Hongrie est devenue, pour cette raison, contributrice nette au budget de l'Union européenne, ce qui est assez paradoxal et assez nouveau. Donc oui, elle le paye cash. Les fonds européens, ils abondent le budget de l'État hongrois, notamment pour des cofinancements en matière d'investissement et autres. La Hongrie a beaucoup reçu de fonds européens de la part de l'Union européenne pour améliorer ses infrastructures, notamment. Aujourd'hui, effectivement, ces fonds, ils font défaut à la Hongrie. Et malgré les rodomontades de Viktor Orban, on voit bien qu'il est toujours dans une discussion, enfin, il est toujours dans une relation très transactionnelle avec l'Union européenne, puisque, on le rappelle, hein, il ne s'est jamais opposé au paquet de sanctions contre la Russie. Il s'est souvent abstenu ou il a quitté la salle, mais en tout cas, il a toujours, là encore, navigué sur une ligne de crête en essayant de garantir autant que possible les intérêts de son pays vis-à-vis de l'Union européenne.
Et ça, ces milliards qui sont bloqués par Bruxelles, ça pourrait peser dans la campagne? C'est vraiment un sujet qui revient régulièrement dans la campagne?
C'est un sujet un peu annexe dans le cadre des difficultés que rencontre le pays. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, en raison de l'inflation, sans doute des difficultés budgétaires, bon, c'est pas très clair, c'est un élément, évidemment, du contexte qui explique le contexte général. Est-ce que dit Peter Mayer aussi, c'est ça, c'est qu'il faut renouer langue avec l'Union européenne pour débloquer tous ces sujets. Et la question des fonds en est un en premier chef.
Eh bien, on suivra bien sûr toute cette actualité, hein, comme ici à Bruxelles d'ailleurs. J'imagine que les fonctionnaires européens à la Commission suivent ça comme le lait sur le feu. Hein, c'est la suite du processus. Je vous remercie en tout cas de vos analyses, hein, Mathieu Boidron. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire contemporaine et donc spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Merci encore de vos éclairages sur ce scrutin attendu en Hongrie.
Merci de votre invitation. Au revoir.
Une production d'Euradio à Bruxelles.
Chaque semaine, Euradio et le Collège d'Europe de Bruges vous proposent un éclairage original sur l'actualité européenne vue depuis la ville belge de Bruges.
Qu'il soit étudiant, assistant académique ou professeur, retrouvez les demandes dans l'Europe vue de Bruges sur Euradio, site web et réseaux sociaux.
Entertaining Europe.
Ooh, it's so good, it's so good, it's so good, it's so good, it's so good. Ooh, heaven knows. Oh,
Sentimiento. kimi ararsam, bilmez miyim gider mi doymamak. Açlıktan öldü şu dünyada. Hey hey hey, muhabbetine doymadım. Açlıktan öldü şu dünyada. Hey hey hey, muhabbetine doymadım. Muhabbetine doymadım. Muhabbetine doymadım.
You know, positive vibration.
Fire.
Listen,
we say,
yo,
soul food to help me elevate. So pass the chalice and make me load the high grade. Well, soul food to make me elevate. When Babylon them wants to run we,
yo,
take back, no talk, nah apologize. With this spiff in a me boat, we be just out the light. What a pound of ganja, chalice by me side. Cause the herb it is the medicine we put in a me mind. It was found with King Solomon on him graveside. With the service of man, the herbs ya provide. Look in Revelation at the great book of life. Them bring the country come because the chalice of feel like we tell them. Soul food to help we meditate. So pass the chalice and make we load the hydrate. Yes, soul food to help we concentrate. When Babylon them wants to run we look again. Soul food to help we meditate. So pass the kochi and make we load the hydrate. Yes, soul food to make we elevate. When Babylon them wants to run we look ya know. Tired feeling we down in a deep bush and we no want the kochi and this round a gully. No, we want to burn the ganja pipe outside. Let it hydrate, make man feel happy. Look ya know, tired feeling we down in a deep bush and we no want lick no chalice round a gully. Look ya know, we want to burn the ganja pipe outside. Let it hydrate, make man feel happy. The ganja a feeble, ganja a feel light. The ganja a feel blazing at the dance hall tonight. Babylon him fall, Jah kingdom rise. We burn hypocrite, burn parasite. We go sudden. Soul food to help we meditate. So pass the chalice and make we load the hydrate. Yes, soul food to help we concentrate. When Babylon them wants to run we look again. Soul food to help we meditate. So pass the kochi and make we load the hydrate. Yes, soul food to make we elevate. When Babylon them wants to run me, look ya know, ganja a fi blazing at the north, blazing at the south, blazing at the east and west. When I smoke a little spliff and take a rest, you know I got to confess, raises up my consciousness. No, ganja a fi blazing at the north, it a fi blazing at the south, blazing at the east and west. Smoke a little spliff and take a rest, you know I got to confess. Raises up my consciousness. Soul food to help we meditate. So pass the challenge.
this I make we load the high grade. Yes, soul food to help we concentrate. When Babylon them wants around we look again. Soul food to help we meditate. So pass the kochi and make we load the high grade. Yes, soul food to make we elevate. When Babylon them wants around we.
Nothing's promised, wake up bodies for this money. Hit our belly every day, yeah. Not too many options for my people, so we pray, yeah. Hustle, 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 hope you one day it go pay, yeah. I wonder where the sun is, we be standing in the vein. When the times get bitter, reaching deeper, find your sugar, 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 forever, khaki no fit be left back. Giving up, it's not an option for me. I'm slowed down, life is hard and it gets you low. Reach inside your soul, fight like no tomorrow. No go drown your happy sorrow. I've been walking tirelessly. I want it the most happy. Ain't nobody quite like me. I'm a different planet. Beyond the pain, I know when your hands be like letting go. Look inside yourself and find love. Find your sugar, find your sugar, sugar. I say sugar, sugar. Sugar, 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 make it this far. I took my pen and turned it into sugar. Go to battle, fight my demons. I am not a loser. I am not a loser. I get the bag and move on. I make the devil you turn. I find my sugar, 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 sugar,
Radio.